إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue de nous avoir permis et accordé le tawfiq de pouvoir nous réunir encore cette occasion pour cette daura concernant les kaba'ir, qui est la deuxième daura sur le sujet, étant donné que c'est un sujet qui est très vaste et qui demande beaucoup d'intervention. Donc, on a décidé de le refaire une deuxième fois et la'allahu ya'ti ba'd-dhalika daura thalitha. Allah ta'ala, peut-être qu'il y aura une troisième daura sur le sujet également. Tant de choses à aborder. Naam. Donc aujourd'hui, moi, j'ai choisi comme thème At-Tabarruj. At-Tabarruj, qu'on va expliquer, qui est en quelque sorte traduit par le dévergondage, la débauche dans l'apparent, voilà, chez la femme. Et j'ai choisi ce sujet-là du fait que la dernière fois, j'ai abordé le sujet de la zina, la fornication. Et le Tabarruj est en lien car il est un moyen qui mène directement à cela. Il est un moyen menant directement à cela. Et comme auparavant, il y a longtemps, quelques années, j'ai fait une muhadara sur l'irtilat, la mixité. Donc tout cela va ensemble. Naam. Fasan abda walen de connaître qu'est-ce que le tabarruj. Donc le ratan, littéralement parlant, un tabarruj, c'est le masdar du verbe tabarraja et tabarraju. Et il est pris de la racine Barajim, Baraj. Et cette racine, elle implique deux sens. Le premier, c'est al-buruz wa al-zuhur, c'est-à-dire le fait de faire apparaître quelque chose, exhiber quelque chose. Et kadhalik, le sens de parure, zina. D'où al-buruj, les kawakib, les astres, les étoiles ont été nommés buruj. Car ils sont une zina, une parure dans le ciel. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَيُومِ الْمَعْوُودِ صَلَاتِ les constellations. Les buruj, ce sont les constellations, les astres, les étoiles, car ils embellissent le ciel. Et ils sont apparents. Et deuxième sens, c'est الْوَزَرْ وَالْمَالْجَى qui est comme une forteresse, un lieu de sécurité. Comme a dit Ta'ala, إِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans une citadelle renforcée. بُرُوج مُشَيَّدَة. Naam. Donc ça, c'est le sens de cette racine du ba, du ra et du jim. Ensuite, إِصْتِلَاحًا وَشَرْعًا, dans la législation, le sens de ce tabarruj, c'est comme l'a dit Tabari, هو إشهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال. C'est en fait le fait de faire apparaître ses parures, que la femme fasse apparaître ses atouts physiques aux hommes, ses atouts physiques qui doivent être cachés aux étrangers, et le fait de s'embellir à leurs yeux et de chercher à plaire. كذلك تكشف والظهور للعيون, comme l'a dit le Courtoubi, c'est se dévoiler, s'exhiber, apparaître pour le regard. Le hukm de ce tabarruj, comme déjà cette daura le prouve, c'est parmi les grands péchés. Il est interdit. Qala subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Et restons vos demeures et ne vous pavanez pas à la manière des gens de la période pré-islamique. C'est-à-dire, comme l'a dit l'imam al-Sa'di dans le tafsir de ce verset, ikrarna fiha, dans vos demeures. Liyanaw aslam wa ahfaz lakunna, car cela est plus prudent pour vous, et plus sécurisant, et plus prudent. Naam. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, et ila tuksirna al-khuruj mutajammilat ومتطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر والأسباب. Donc ça veut dire, ne vous pavanez pas, ne sortez pas à la manière des gens de la période pré-islamique, c'est-à-dire, ne sortez pas outrance de vos maisons, embellies, parfumées, comme c'était la coutume des gens de la jahiliya, ceux qui n'avaient ni de ilm et ni de religion. Et tout cela pour repousser le mal et ses causes. وَيَقُولُ سُبْحَانَا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَدْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ وَلَيُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et dit aux croyantes, dans le sens où elle a dit, dit aux croyantes de baisser leur regard, et de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en apparaît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, c'est-à-dire de derrière jusqu'à devant. Et là, elle parle du voile de l'extérieur. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leur femme. C'est-à-dire, selon une interprétation, les femmes de l'islam. Ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles, c'est-à-dire n'ayant pas de désir, incapables de pouvoir assouvir leur désir. Ou aux garçons impubères qui ignorent toutes des parties cachées des femmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint le tamis, l'âge de la distinction. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent sous de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc le verset lui-même, il est explicite. Wa kadhalika fil Qur'an yaqulu ta'ala wal qawa'idu min an-nisa التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Et quant aux femmes âgées, car souvent ils traduisent cela par un tête de ménopause, et cela n'est pas correct. Ces femmes âgées, car une femme peut être atteinte de ménopause et elle n'est pas âgée. Donc là, ce sont les femmes âgées, c'est-à-dire arriver à un moment où elles n'espèrent plus se marier. Et nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, c'est-à-dire qu'elles peuvent se découvrir le visage et ne plus porter le khimar à la manière des femmes jeunes, de la même manière. Sans cependant exhiber leurs atours. Car dans le verset, il a bien dit « غَيْرِ مُتَبَارِجَاتٍ بِزِينَ » C'est ça le shahid, « مُتَبَارِجَاتٍ بِزِينَ » Sans cependant exhiber leurs atours. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Et Allah est audient et omniscient. Donc ça, ce sont parmi les adillah du Coran. Maintenant, dans la sunna, les adillah par rapport à cet tabarruj, jaa à Nabi Hurayra, radiyallahu anhu, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a bien dit, deux catégories de personnes, des gens du feu que je n'ai pas encore vus. Donc, c'est-à-dire qu'à son époque, cela n'était pas encore présent. À l'époque de, après le Birtha, après la révélation. Car avant la révélation, cela existait. Et là, des gens qui ont des, comme des fouets, ressemblant à des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Donc, cette partie-là ne nous concerne pas par rapport au sujet-là. deuxième partie du hadith, il a dit, et des femmes habillées, dévêtues, n'étant pas sur la droiture, et influenceuses, on va dire comme ça, ayant des têtes comme des bosses de dromadaires, elles n'entreront pas au Jannah, au paradis. Et elles ne trouveront pas son odeur, alors que son odeur est trouvable à une distance de telle et telle façon. Il y a une grande distance. Le Jannah, on le sent à grande distance, mais ces femmes-là ne le sentiront pas. Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, dans ce hadith, il a dit, أراد النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فإنهن كاسيات بالإسم عاريات في الحقيقة. Donc il dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a voulu par là parler des femmes qui portent des vêtements légers, transparents, ou qui dessinent le corps, qui ne couvrent pas le corps, car elles sont habillées, c'est-à-dire qu'il y a sur elles ce qu'on appelle un vêtement, et cela par rapport à la nomination, mais dans la réalité, elles sont dévêtues, car leur nudité apparaît. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a dit également, parmi les explications de ce hadith, il a dit, كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها, qu'elles sont habillées des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, mais elles sont dénudées de toute reconnaissance, de tout remerciement. Ça, c'est l'un des, également, des tafasir qui étaient donnés par rapport au hadith. Et d'autres, parmi les gens de science, ils ont dit, comme l'a expliqué Ibn Abdelbar. C'est-à-dire qu'elles sont, elles ont sur elles un vêtement, mais ce vêtement ne couvre pas leur nudité en réalité et laisse apparaître leur corps et leurs atouts. Et donc, parmi ces vêtements, comme il dit Cheikh Ibn Baz, soit car ces vêtements sont moulants, soit car ils sont courts, soit car ils sont transparents, légers, wa li'azu billah. Donc, de là, apparaît leur forme et leur aura. Donc, il a dit, كاسية بالإسم, comme Ibn Abdelbar, elles sont habillées selon le terme linguistique, car elles ont sur elles quelque chose, mais en réalité, elles sont nues. Et dans le hadith qu'on a dit, مائلات مميلات, il veut dire, en fait, elles ont délaissé, justement, la chasteté et la retenue et la pudeur. Et ma'ilat an istiqama, c'est-à-dire qu'elles ont délaissé également la droiture, et qu'elles penchent pour les turpitudes et les choses répréhensibles. Et kadhalik, ma'ilat an al-iffa wa sabr ala ma awjabahullahu ila ma haramallah min az-zina wal fawahish wa tuham. Et également, elles n'ont pas patienté ce que Allah Azza wa Jal leur a interdit, qui est la fornication, les turpitudes, et éviter de se faire déshonorer, et de se faire accuser, de se faire suspecter. Et mumilat, ça veut dire quoi? Qu'elles sont, comme on l'a dit dans le tarjama, elles influencent les autres. Elles appellent les autres femmes à agir de la sorte. Soit par leur fait qui motive d'autres à agir de la sorte, ou soit directement par la parole en disant aux femmes de faire « habille-toi comme ceci, mets cela, et fais comme ceci, fais comme cela. » Voilà, « azbillah ». كذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كسملة البخت إلعنهن فإنهن ملعونات. Dans un autre hadith, au sens similaire, que le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit, qu'il y aura à la fin des temps, dans ma communauté, des femmes habillées, dénudées, qui ont sur leur tête comme des bosses de chameau. Maudissez-les, car elles sont maudites. Maudissez-les, car elles sont maudites. Et également, quand on a dit les bosses de chameau, c'est par rapport à leur coiffure, qu'elles font comme un chignon derrière la tête, mais au lieu qu'il soit vers le bas, il est vers le haut. Chose qui ressort même sous leur hijab. Ça fait comme une bosse. Donc ces deux hadiths démontrent que cela est parmi les kaba'ir, car les kaba'ir, les grands péchés, c'est ce qui amène à une malédiction, ou à la menace d'un dur châtiment dans l'au-delà, ou une sentence en ce bas monde, ou un désaveu. Donc là, dans le premier hadith qu'on a appris, elles ne sortiront pas l'automne de Jannah. Dans le deuxième, elles sont maudites et qu'il faut les maudire. Wa li'az billah. كذلك عن فضال بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أو أبق فمات ومرأة غاب عنها زوجها فقد كفاها منات الدنيا فتبرجت بعده. رواه الإمام أحمد. Il a dit trois personnes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au sujet desquelles il ne faut même pas interroger, tant leur cas est grave. Un homme qui a délaissé le groupe et qui a désobéi au gouverneur et qui est mort désobéissant là-dessus. Le deuxième, c'est un esclave, homme ou femme, fugitif et qui meurt dans sa fuite. Et troisième, c'est ça le shahid, une femme dont le mari s'est absenté et qui a laissé tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre à la maison. Et après ça, après son départ, elle s'est mise à s'exhiber en sortant de chez elle. Tabarrajat. Wali'az billah. On a parmi les aqwal des femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport au tabarruj, selon Aïcha. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qu'elle ait dit, لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. Elle a dit à son époque, Aïcha, que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce que les femmes ont provoqué, il aurait interdit le masjid comme cela a été interdit aux femmes de Bani Israël. Car à la base, comme dans le hadith, c'est venu que si la femme demande la permission pour aller au masjid, il ne faut pas l'interdire. Mais quelle condition qui n'est pas de fitan. Et là, Aïcha, à son époque, elle a dit si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce que les femmes faisaient, il aurait interdit le masjid comme il a interdit, que cela a été interdit plutôt aux femmes des Bani Israël. Pourquoi? Car, dans d'autres hadiths, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ittaqu ad-dunya wa ittaqu an-nisa fa inna awwal fitnat Bani Israël kanat fi an-nisa. » Il a dit « Craignez la dunya, les Ibn Subamoun, et craignez les femmes, c'est-à-dire la tentation des femmes, car la première fitna qui a causé la perte des Bani Israël, ce sont les femmes, justement. » Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, a apporté un athar de Aïcha, qu'elle fut interrogée à propos de différentes choses. À propos des teintures de cheveux, à propos, mesalène, des parures, des bijoux, des boucles d'oreilles, ou du khalkhal. Khalkhal, c'est la chaîne que l'on met aux chevilles. Des bagues en or et des vêtements légers. Faqalat ya ma'shal an-nisa, qissatukunna kulluha wahida, ahallallahu lakunna az-zina ghayr mutabarijat, ay la yahillu lakunna an yurau minkunna muharrama. Il a dit, elle a dit plutôt, ô vous les femmes, votre histoire n'est qu'une, à vous toutes, que Allah vous a autorisé les parures sans s'exhiber. C'est-à-dire, la femme peut porter des parures aux yeux des gens qui sont autorisés ou à son mari et autres. Et quand on parle de parures, on ne parle pas de aura. On parle des parures comme des parties, certaines parties apparentes, comme ses cheveux, comme les membres des ablutions et autres. Et il a dit, il ne vous est pas permis de faire apparaître quoi que ce soit l'interdit. Donc c'est ces parures-là. Kazalik, il fut rapporté de Hafsa, la fille de Abdurrahman, qui était le fils de Abu Bakr, c'est-à-dire la nièce de Aïcha, radhiyallahu anha, qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle portait un khimar qui était un peu transparent. Fashaqqahu Aïcha. Aïcha l'a déchiré et lui a donné à la place un autre plus opaque. Donc sa propre nièce, elle a fait inkar munkar biliyad. Elle avait la coudre de le faire. Elle a empêché ce mal. Et kazalik, al-Munzir ibn Zubayr est venu d'Irak. Et il a envoyé Asma, la fille de Abu Bakr, donc la sœur de Aïcha, après qu'elle soit devenue aveugle. Il lui a envoyé un vêtement qui était léger. Quand elle a pris le vêtement, elle l'a touché. فقالت اوف رد عليه كسوته. Elle a dit, fille de ce vêtement, rendez-lui. فشق ذلك علي. Donc cela l'a surpris. فقال يا أمة إنه لا يشف أو يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف. Il a dit, oh ma mère. Il a dit, ce vêtement n'est pas transparent. Elle a dit, s'il n'est pas transparent, il décrit le corps quand même par sa légèreté. C'est-à-dire que peut-être qu'il est un peu trop serré ou tellement léger qu'avec le vent, par exemple, il ferait apparaître les formes du corps. Donc elle a refusé. Et malgré qu'il nous soit à nous obligatoire de baisser le regard pour nous préserver de cette fitna, le tabarruj peut toucher et nous atteindre par d'autres sens. Et cela pourquoi, justement, attiser l'attention, ou attiser la tentation et attirer le regard. En premier lieu, il y a al-basar, la vue, dont on vient de citer des hadiths. Ou, par exemple, il y a l'histoire de Jureyj, qui était parmi les gens de Bani Israël, qui était un homme pieux, et qui faisait salat nafila, et sa mère l'a appelé. Et lui, plutôt que répondre à sa mère, il a continué dans sa salat. Donc sa mère s'est mise en colère, et elle a fait un doigt contre lui. قالت اللهم لا تقبض روحه حتى يرى وجوه الممسات. Elle a dit, oh Allah, ne le fais pas mourir sans qu'il ait vu le visage des fornicatrices. Donc voilà, le visage des fornicatrices, c'est une grande fitna. Et cela rentre dedans également le maquillage que les femmes se mettent hors de leur foyer. Et même ce maquillage, certains d'entre eux sont des gens qui sont étanches, qui empêchent l'eau de passer pour faire des ablutions. Et certaines même, des femmes qui mettent du maquillage à outrance pour des occasions, repoussent la salat pour ne pas avoir salé le visage et garder leur maquillage. Voilà, azbillah. Donc ça peut aller loin. Ça, c'est le premier, c'est la vue. Deuxième, l'odorat. L'odorat. An Abi Moussa, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, istahtarat al-mar'a, fa marrat ala qawmin, layajidu rihaha, faya kaza wa kaza. Qala qawlan shadida, wa fi riwaya, faya zaniya. Il a dit qu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si une femme se parfume et qu'elle sort de chez elle et passe auprès des gens qui sentent son odeur, alors elle est telle et telle, de telle et telle façon. Il a dit une parole dure. Dans une version, il a dit c'est une fornicatrice. Donc cela nous fait apparaître clairement le jugement que se parfumer pour la femme n'est pas permis. Et d'ailleurs, c'est celle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? C'est quoi le parfum de la femme? Ma khaffa rihuha wa zahara lounuha. Le parfum d'une femme, en réalité, c'est celui dont l'odeur est légère, discrète, dont la couleur est apparente. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les parfums des femmes sont transparents et l'odeur, elle est forte, très forte. Donc ça, la femme, hors du foyer, ne peut porter ce genre de choses. Même les lessives qui parfument les vêtements, c'est pareil. Ou les crèmes qu'elle porterait, qui aimerait à ce qu'on sorte son odeur, rentrent dans le même jugement, comme on dit le ulama. Donc on vient de voir la vue. Il y a l'odorat. Il y a également l'ouïe. Comme dans le verset, كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Oh, les femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. C'est-à-dire que la femme, quand elle parle, elle ne parle pas de façon complaisante, une voix raqiqa. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit que ce verset, bien qu'il soit spécifique, ou plutôt il soit descendu sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il concerne toutes les femmes de façon générale. Wa kadhalik, le verset qu'on a pris tout à l'heure, à la fin, comme a dit ta'ala, wa la yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Qu'elles ne frappent pas avec leurs jambes, afin que l'on sache ce qu'elles cachent, comme parure, sous leurs pieds. Et ça, il s'agissait quoi? De ce qu'on appelle les khal-khal, sont des chaînettes qu'elles mettaient sous leurs pieds, qu'elles accrochaient à leurs chevilles, et elles marchaient fort afin que les hommes entendent le bruit des chaînettes pour qu'ils sachent ce qu'elles portaient sous leurs vêtements et attirent leur attention. Et ça, aujourd'hui, c'est comparable à ces talons que beaucoup de femmes portent, des talons hauts, qui font du bruit lorsqu'elles marchent, qu'on entend de loin. On sait que c'est une femme qui arrive. D'ailleurs, les talons hauts, les ulama ont fait des fatawa pour dire que cela était interdit, car cela déforme la femme, cela lui donne une apparence qui n'est pas la sienne, cela la fait, la rend plus grande qu'elle ne l'est, cela est dangereux pour elle, sa santé, car elle peut se blesser facilement avec ce genre de chaussures. Et un hadith a été rapporté chez l'imam muslim, selon Abu Huraira, qu'il y avait une femme des Bani Israël qui marchait entre deux femmes qui étaient grandes. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite, elle? Elle a mis des talons de bois pour paraître plus grande, à tel point que les gens ne la reconnaissaient même pas. Parce qu'elle était couverte, elle aussi, avant. Donc les gens ne la reconnaissaient pas par sa taille. Donc cela amène à تغيير خلق الله ou changement de la création d'Allah Azza wa Jal. Donc ces talons-là, les porter à l'extérieur, prend le même jugement. Quant au sens du toucher, ils n'auront pas dans le tabarruj. Mais il est certain que toucher une femme étrangère, كما هو معلوم هذا ما يجوز كما جاء عن ميعقال بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم في رأسه بمخياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Il a dit que l'un d'entre vous se fasse enfoncer une aiguille de fer dans la tête, cela lui est meilleur que de toucher une femme qui ne lui est pas permise. Donc cette fitna tabarruj est une très grande fitna. La pire pour les hommes, comme a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, ma taraktu min fitnatin adar ala rijal min fitnat nisa. Je n'ai pas laissé de fitna pour l'homme plus grande que celle de la femme. Ça, c'est propre à l'homme en lui-même, celle de la femme. Donc celui qui a un minimum de fiqh, ayant pris conscience de cela, comprend tout à fait le jugement du hijab, que tant tente d'évincer et au minimum de minimiser, en ne limitant cela qu'à un simple bout de tissu que l'on met sur la tête de la femme, malgré elle, pour montrer sa soumission aux hommes, d'après eux. Et que cela est un irrespect de la femme, de la voiler. Allah, d'un mot, hik. Alors qu'en réalité, l'irrespect de la femme, c'est le tabarruj. L'irrespect de la femme, c'est le tabarruj. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلال بيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Donc, le verset il est clair, de porter le hijab et le jilbab. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être ainsi offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ibn Jarir, dans le tafsir de ce verset, explique que Allah Azza wa Jal parle à son prophète pour qu'il dise à ses propres femmes à lui, ainsi qu'à ses filles et à toutes les femmes des croyants, donc à toutes les croyantes, qu'elles soient mariées ou célibataires ou autres, qu'elles ne doivent pas ressembler justement aux esclaves. Car il y a un cours qui dit que les esclaves n'étaient pas voilés à leur époque. Ça, c'est une masala qui était une masala dans laquelle il y a khilaf. Donc, elles ne dévoilent pas leurs cheveux et ni leur visage. À l'alcool, le sahih. Donc, elles rabattent leur jilbab sur elles. قَالَ لِأَيْ يُعْرِدْ لِأَيْ لَا يُعْرِدْ لَهُنَّ فَاسِقْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرْ بِأَذَا مِنْ قَوْلِ. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas justement un pervers qui ne vienne les offenser. Comment? En voulant les séduire, en voulant les agresser, ou autre. Donc le but, c'est que la femme soit couverte et qu'on ne la reconnaisse pas. C'est-à-dire, qu'adalik, pour ne pas qu'on la reconnaisse, qu'on ne voit pas son visage. Le verset en lui-même lui fait comprendre cela. Non. Donc, la femme muslima qui porte le hijab légiféré n'est pas offensée de ce côté-là. Maintenant, des gens vont dire, mais comment? On est, par exemple, en France, des femmes se font agresser, nos sœurs, avec leur voile. On dit ça, c'est un autre wedge. Elles se font agresser pour leur islam, pas pour le voile. Là, le verset parle du fait qu'elles soient courtoisées par des hommes. Des hommes qui ont de les séduire ou quoi. Ah, mais les agressions, ça, c'est lié par rapport au pays de Kouf, dans lequel elles n'ont pas leur place. Ça, c'est notre masala. Mais en pays d'islam, tu ne verras pas une femme, mutahajjiba, se faire offenser par les gens. Elles sont respectées. Déjà, elles sortent peu, et quand elles sortent souvent accompagnées, ou en groupe, et quoi qu'il en soit, ce hijab inspire le respect. C'est une réalité. Donc on ne fait pas un qiyas par rapport à ce qui se passe en pays de Kouf. D'accord? Car à la base, elle n'a pas à être là-bas. Donc l'offense en pays de Kouf, elle est pour l'islam, et non pas pour tenter de la séduire. Mais tu ne verras pas un homme s'approcher d'une femme en hijab, légiférée pour la draguer. Sûrement pas. Il sait très bien que ce hijab, il veut tout dire en lui-même. Il veut dire, passe ton chemin. Ici, c'est pas possible. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Donc, subhanallah, les femmes dans le monde ne cessent de se plaindre d'agressions sexuelles, d'harcèlement, de viols, d'attouchements ou au travail, dans la rue, à l'école et j'en passe. Elles s'exposent aux hommes matin et soir en aguicheuse, en se proclamant libres de pouvoir s'habiller comme bon leur semble, mais elles ne veulent toujours pas admettre la nature de l'homme. Il a été créé ainsi, attiré par le sexe féminin. car la femme a été créée à partir de lui pour le tenir compagnie, lui apporter affection et pour s'accoupler. Et qu'au minimum, même s'il trouvait la force de faire preuve de retenue, cet homme-là, de ne pas l'approcher, elle resterait quand même pour lui une tentation. Car elle resterait où? Dans son esprit. Il penserait à elle. Il réfléchirait comment faire pour pouvoir l'approcher et l'acquérir. Donc, elle serait comme une obsession pour lui. Même s'il ne montre pas ce qu'il a en lui, dans sa tête, ce serait différent. Et ça commence par la tête, après un regard, après une parole, après un geste, et après ça peut aller loin. Et Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est lui qui nous a créés. Donc par sa grande sagesse, l'établissement des règles nous permettant de nous protéger de notre propre mal. Et de protéger la femme. Donc, l'être humain est de nature mauvaise de base. كما قال تعالى عن ملكة سبا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الله يجيب قبض la reine de Saba qu'elle dit en vérité quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés et c'est ainsi qu'ils agissent. نعم, le verset en lui-même le montre bien. La chose qui empêche beaucoup de gens d'agir selon leur instinct et leurs envies, ce n'est pas leur bouffon, hormis un nombre infime à qui Allah fait rahma. Mais ce n'est pas leur bouffon, mais leur incapacité à pouvoir extérioriser et exprimer leur mal. Ils ne peuvent pas le faire. Mais le jour où ils en ont l'occasion et le pouvoir, là tu vois la face cachée qui apparaît. Vous avez juste à voir le comportement des gens de pouvoir, ou ceux qui ont autorité, ou ceux qui ont de l'argent. Regarde comment ils méprisent les gens, ils se permettent tous leurs caprices. Et toutes les injustices. Pourquoi? Ils disent, personne ne va rien me faire. J'ai de l'argent. Je suis le roi un tel. Je suis le président un tel. Le ministre un tel. Il fait ce qu'il veut. Personne ne s'oppose à lui. Donc de là, tu vois le vrai visage de la personne. Et certains le font ouvertement. D'accord? Sans se cacher. Et d'autres le font sournoisement pour ne pas entacher leur image. Car c'est aussi une des causes qui les dissuade. La peur de se faire dévoiler. D'accord? Donc, regardez bien à quel moment les femmes se font agresser. Hein? Et dans quelle situation en général? Dans les lieux isolés, à l'abri des regards, d'accord? Ou dans les lieux jugés, malfamés, non sécurisés. Au moment où il y a une occasion de ne pas se faire attraper. Souvent c'est le soir, dans les ruelles sombres, désertes, ou dans les quartiers malfamés comme on l'a dit, ou dans des lieux où tu ne verras pas des gens s'interposer pour la défendre. Donc là, la personne se dit, c'est bon, je peux faire ce que j'ai à faire. Et les femmes elles-mêmes le savent, le soir, elles évitent de sortir toutes seules et mal habillées. Bah, elles savent qu'elles sont en danger. Donc oui, telle est la nature de l'homme. Comme Allah Ta'ala, إِنَّا كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. C'est la base de l'homme. Injustice et ignorance. وَخُلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. Et l'homme a été créé faible. D'accord? L'homme a été créé faible. Et la base de tout mal, justement, c'est الجهل, l'ignorance. Mais la différence qu'il y a entre les croyants pieux et les autres, c'est que eux savent ce qu'ils encourent à enfreindre les interdits et ont conscience des mauvaises répercussions que cela aura sur eux, mais aussi sur les sociétés de façon générale. Donc ils ont un savoir, ils ont un ilm qui leur a été accordé par la révélation en laquelle ils croient fermement. Ils craignent la colère de leur Seigneur et espèrent son agrément et souhaitent se rapprocher de lui. Oulaika allazina yad'una yabtaruna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Inna azaba rabbika kana mahzuma. Hein, ceux-là qui invoquent, c'est-à-dire leur Seigneur, et cherchent le moins de se rapprocher de lui, et d'être le plus proche de lui, et espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment, car certes le châtiment de ton Seigneur est redouté, très redouté. Sans quoi, même les croyants ne sont pas épargnés de la tentation, de la fitna. Voire même, ils y sont encore plus exposés que les autres, car Shaitan les convoite plus que les autres. Shaitan est ahras alal muttaqiyin min ghaylihim. Car c'est ma'rouf. Mais c'est justement cette retenue face à ces tentations et leur endurance qui leur donne toute cette valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَمَ رَبِّهِ وَنَهَا نَسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui a peur de la rencontre de son Seigneur et qui interdit son nef, son âme, de suivre ses passions, alors le Jannah sera un abri, son abri. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي سعيد الخدري المعصوم ما
Man asamahu Allah. Et celui qui est épargné, celui qu'Allah aura épargné. Donc la baya du croyant, c'est sa taqwa. Comme a dit Ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Et seuls les savants craignent Allah. Donc la taqwa. Donc les gens peuvent s'inventer toutes les philosophies qu'ils veulent, les idéaux qu'ils veulent, les personnages fictifs dans les films, dans les romans, dans les séries, dans autres, aussi impeccables qu'ils le souhaitent à leurs yeux, ils ne changeront en rien cette nature de l'homme. Au contraire, ils ne font que empirer la situation, à faire rêver les gens, car le rêveur, c'est quoi qu'il déteste le plus le rêveur? C'est le réveil, la réalité. Comme a dit Ta'ala, وَاكْسَلُهُمْ لِلْحَقِّ كَالِهُونَ. Que la plupart d'entre eux n'aiment pas la vérité. وَلُوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَرَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ بَالَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Car si la vérité devait suivre leur passion, c'est-à-dire celle des gens, tu verrais que les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve se corrompre. Et nous leur avons apporté leur rappel, mais ils se détournent du rappel. Donc les gens ne veulent pas savoir la vérité. Quand tu éteins ta télévision, tu fermes ton roman, ou quand tu sors de la salle de cinéma, et que tu reviens vite à la réalité. Tu te rends compte vite c'est quoi la réalité. Fini l'utopie. Et le plus drôle, c'est que même les personnages préférés des jeunes, ce qui les intrigue le plus, c'est qui? Ce sont les pervers criminels, et non pas les gens sages. Ils aiment voir les criminels. Ce sont eux leurs références en général. Les gens qui font du mal, des choses bizarres, des choses étranges. Sans quoi, la sagesse et la droiture, ça les ennuie. Un frère m'avait envoyé le commentaire d'un kafir qui se croyait malin à critiquer le hijab. Il disait que cela n'est qu'une intolérable vulgarité qui n'a pour effet que d'annier à ce kafir de ne lui jeter en pleine face que les hommes ne sont que des singes en rute et les femmes que des chiennes en chaleur. C'est pour ça qu'ils se voilent. C'est-à-dire que le voile, ça veut dire que toi, tu sais pas te tenir et tu sais pas se tenir. Et au final, il dit quoi en plus? Qu'on peut être tout à fait dénudé en restant pudique et chaste. Allahu Akbar. Vous voyez le niveau d'incohérence et l'absence totale de bon sens. Nu, mais pudique et chaste. Eh Allah. Ce genre de raisonnement court dans les rues chez les anti-hygiènes. C'est marlouf. Et rien qu'au vu des nouvelles modes vestimentaires, d'accord, essentiellement axées sur le moulant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, tout cela pour inciter aux turpitudes. N'est-ce pas propre aux attentes justement de ce gouril en rut, de la chaîne en chaleur, de s'habiller comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est quoi le but? Cet accoutrement reflète ton intention et tes attentes. D'accord? Même des vêtements aujourd'hui qui t'inventent même des atouts que tu n'as même pas à la base. Ils donnent des formes à des femmes qu'elles n'ont pas à la base. Donc pourquoi ces formes, elles veulent les faire apparaître? C'est quoi son but? De plaire? Ah, t'as pas le rouge. Là, je parle des koufars et des muslimates, malheureusement, qui suivent ce genre de mode. Donc, pour revenir à ce kafir, la réponse, elle est simple. Si selon toi, les gens sont si bons, ou ont tant de retenue et de discipline, et de savoir vivre en société, et de respect des autres, bah, pourquoi alors tu verrouilles ta porte quand tu rentres le soir, chez toi? Quand tu sors, quand tu rentres? Pourquoi tu fermes un double tour? Pourquoi tu ranges ton portefeuille dans ta poche intérieure? Pourquoi tu sécurises ton iPhone avec un code? Pourquoi installer l'antivol sur ta voiture et tu ne laisses pas les clés ou les portes ouvertes de ta voiture avec les clés sur le contact? Pourquoi? Pourquoi tu te caches quand tu tapes ton code au distributeur bancaire, tu regardes à droite à gauche, voir s'il n'y a pas un noir ou un arabe qui rôde là? Pourquoi tu fais ça? Hein? Ou quand tu rentres dans cette banque et que tu passes les sas de sécurité? C'est pourquoi? Ou que tu vois la police armée à longueur de journée dans les rues qui tournent? Ou le système anti-vol à Carrefour avec des gros vigiles baraqués partout. Est-ce que tu prends cela comme une insulte que l'homme n'est qu'un pillard assoiffé d'or? Tu penses cela? Pourquoi pour l'Égypte tu le penses, mais pour ce genre de choses tu ne le penses pas? Et si jamais dans le meilleur des cas, toi tu ne voles pas, car je pense que tu ne voles pas sûrement parce que tu as peur de te faire attraper, tout simplement, ben d'autres ont compris quelle était la nature humaine face au bien des gens. Eux ils ont compris que si l'homme tu le laisses, il va prendre ces choses-là. Il va dérober, il va voler, il va casser, il va lapider, il va faire des actes de vandalisme. C'est comme ça que le mille. Et cela, cette nature de l'homme, qu'elle soit pour les biens des gens ou pour leurs femmes, pour les biens des gens ou pour leurs femmes. Oui, protéger les biens font partie de nos priorités. Hada min ad-darurat al-khamsa en islam. Mais pour nous, au même titre que la protection de l'honneur et de la généalogie, donc l'interdiction des rapports hors mariage, enfermant toutes les issues qui y mènent, d'où la prohibition de l'exhibition tabarruj, du dévergondage des femmes qui sont plus faibles que les hommes et ne sont pas en mesure de se défendre. Hada ma'rouf. Donc, mais en réalité, à quoi sert de débattre avec de tels personnages? Nous n'avons pas les mêmes valeurs, ni les mêmes objectifs. L'islam est là pour nous aider à voguer sur les mers et à avancer, nous servir du vent, éviter les tempêtes, éviter les vagues, mais eux, ils veulent couler. Eux, ils veulent couler au fond des abysses. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Les gens, aujourd'hui, n'ont plus la valeur de la chasteté. Avoir des rapports hors mariage, c'est tout ce qui est plus banal pour eux. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel? C'est d'avoir des rapports consentants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à faire zina, forniquer. Au contraire, c'est même pour eux, c'est noble. Même avec les femmes des autres, cela pour eux, c'est de dire, ah, j'ai eu la femme de un tel, ah, je suis trop fort, j'ai eu la femme de un tel, je suis trop fort. Il a rien vu. Hein? Pour eux, c'est noble. C'est une marque de force. Mais c'est quoi le blâme chez eux? C'est d'en arriver au viol, ou plutôt, de se faire attraper. Car même violer une femme, certains, c'est une noblesse, de prendre une femme de force. Se monter comme étant un mâle dominant. Là, le problème, il est où? Quand tu te fais attraper. C'est là que c'est le problème. C'est là qu'ils aiment pas ça. Et combien d'hommes attrapent des femmes et ils sont plusieurs sur elles. 5, 6 sur elles. Et après, ils en rigolent, ils en sont tout fiers. Ils le racontent. Alhamdoulilah. Mais quand est-ce que, c'est quand le problème? Quand on se fait attraper. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ne font pas le mal. Non pas par un bon fond, en général, mais par la peur de se faire attraper par la suite. Sans quoi, s'il peut faire la chose, se faire attraper, il va la faire. Dans ce domaine-là ou dans d'autres. Donc ces gens-là, ils sont l'exemple de quoi? D'un voleur à l'étalage, qui vole dans les magasins comme ça, des choses, mais qui se voit comme étant honnête. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je ne braque pas des banques, et je ne détourne pas des fonds, des grandes sommes. Donc moi, ça va, je suis normal. Non, t'es pas normal, voler, c'est voler. Et les koufars, ils disent bien, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc celui qui regarde une femme, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Ah, on vous laisse avec votre philosophie. Non. Donc ces femmes, mutabarrijat, qui s'habillent en exhibant leurs atouts, ne le font que dans le but de plaire. Mais elles veulent jouer avec leur jeu dont les règles sont, on ne touche qu'avec les yeux. C'est ça leur jeu. Regarde-moi avec tes yeux, pas avec tes mains. Sauf que trop d'hommes ne respecteront pas les règles. Et qui est-ce qui va perdre ce jeu? Ce sont elles-mêmes qui vont perdre, à leur propre jeu. L'homme ne va pas respecter les règles de ton jeu. Et peu d'entre elles assument leur côté aguicheuse, mais disent ne s'habiller comme cela que pour se plaire à elles-mêmes d'abord, d'après elles. Mais qui c'est qui va te croire? Pourquoi est-ce que tu cherches à te plaire à toi-même que lorsque tu sors de chez toi ou que tu rencontres des gens ou que tu as un rendez-vous ou quoi? Tu ne fais pas tout ça quand tu es chez toi. Pourquoi chercher à te plaire dehors mais pas chez toi seul? C'est quoi la différence entre les deux situations? C'est que dehors, il y a des gens, il y a des regards. Chez toi, il n'y a rien. Donc, à la maison, ça laisse aller. Un point important à citer. Important à citer par rapport aux femmes mutabarrijat, tabarruj. Cela ne se limite pas qu'aux femmes habillées court ou moulant ou transparent. Cheikh Ibn Baz, rahmallahu ta'ala, est interrogé à propos de cela. Le tabarruj mahou. C'est quoi le tabarruj? قال إظهار المحاسن والمفاتن كإظهار شعرها ووجهها وعنقها والسرع التي في أذنها وحلقها من الحلي كل هذه يسمى تبرج. Regardez bien ce qu'il a dit. Il t'a interrogé sur tabarruj. Il a dit quoi? C'est le fait de faire apparaître les atouts. D'accord? Et il a dit comme faire apparaître les cheveux ou le visage ou sa nuque ou ses bijoux comme ses boucles d'oreilles ou ses colliers ou ses bracelets et autres. Tout cela, c'est tabarruj. D'accord? Donc, il a dit كذلك هكذا الوجه في أصح قول العلماء هو من المفاتيح. Il a dit que le visage, selon l'avis authentique des ulama, car il y a une divergence, c'est parmi les choses de tentation. لأن جمال المرأة وحسنها وزينتها يظهر من وجهها. Il a dit pourquoi? Car la beauté de la femme, il apparaît où? La plus grande marque de beauté de la femme, c'est où? Dans son visage. Aujourd'hui, les gens disent le corps, c'est important aussi. Le corps, c'est une chose qui peut être, on va dire, travaillée avec le sport, les régimes alimentaires et autres. D'accord? Mais le visage, tu ne peux pas changer le visage. Le visage, c'est une chose, c'est Allah qui te donne comme ça. Et c'est pourquoi les femmes se maquillent? pour embellir leur visage. D'accord? Pourquoi? Car la plus grande marque de beauté chez la femme, ça va être son visage. Donc de là, les ulama disent que la femme couvre son visage. D'accord? C'est une masala khilafia, je voulais au début l'aborder, mais ça va être trop long, donc, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on fera un autre audio sur le sujet. Il a dit également, فالواجب على النساء هو البعد عن التبرج وإظهار المحاسن ومن ذلك التكسر والتميع في المشية هذا من التبرج أيضا. Il a dit ce qui est obligatoire pour la femme, d'accord, c'est qu'elle s'éloigne du tabarruj, de faire apparaître ses atouts physiques, et gazalik, le déhanchement en marchant, se dandiner en marchant, cela fait partie du tabarruj, sa démarche. Comment elle marche, rentre, même si elle est habillée correctement, sa démarche peut être du tabarruj. Ibn Uthaymin, rahmallahu ta'ala, il a une réponse similaire. Il est interrogé à propos du fait d'avoir les mains découvertes, faqat, et le wajh, le visage découvert. Il a dit, Aza mahal khilaf bina al-ilm. Ça, c'est une question de divergence entre les savants. Wa sawabanu min tabarruj, lienna min abla azbab wasail al-fitna, zuhur al-wajh wa kaffayn. Il a dit, et la parole authentique, c'est que faire apparaître son visage et ses mains, cela est du tabarruj. Donc, la mutabarrija, contrairement à ce que les gens s'imaginent, dès qu'on dit mutabarrija, les gens pensent à la femme qui est habillée comme une dépravée. D'accord? Moulant, transparent, court et autres. Là, ala qawl haoula al-ulama, c'est le qawl des jumhur, et c'est le qawl qui est sawab, d'accord? Le qawl qui est véridique, c'est que même celle qui découvre son visage et qui laisse ses mains, on l'appelle shal'an mutabarrija. C'est une mutabarrija. Bien sûr, elles ne sont pas au même niveau que celles qui sont habillées, dénudées. Naam. Mais cela leur reste interdit. Et shal'an, on les appelle mutabarrijat. Aussi, le hijab, ce qu'on appelle le hijab, les gens aujourd'hui l'ont mal compris. Pour eux, le hijab, c'est le tissu qu'on met autour de la tête. Là, le hijab, c'est ce qui couvre la tête, les cheveux, le visage et le buste. Car aujourd'hui, les gens, ils appellent quoi? Ils ont mis un mot nouveau qui n'a pas d'origine dans le char. C'est sitar. Sitar, à la base, c'est un rideau. Pour dire, c'est celle qui se couvre le visage, elle porte le sitar. D'accord? Comme ils disent. Ah, là, tu pourras trouver tous les versets, les hadiths, les apôles des salafs. Ce mot-là, tu vas trouver nulle part. Ça, c'est un mot qui est nouveau. Pourquoi? Pour faire croire que c'est une chose qui est en plus. Chez les salafs, hijab, c'était quoi? Visage couvert. Visage couvert. Et parmi celles-ci qui se découvrent le visage, le mustawa qui est plus gravissime sont celles qui portent, on va dire, allez, un voile autour de sur la tête, même large, des vêtements larges, abaya large, mais le visage maquillé. C'est quoi le sens? Ça n'a pas le sens. Elles sont maquillées. Ou alors, celles qui mettent leur photo en profil sur les réseaux. Elle a son hijab, et tu la vois, toute maquillée, avec un grand sourire. Voilà, zubillah. Elle cache ses oreilles avec son voile, d'accord? Car ses oreilles sont ornées de boucles d'oreilles, mais elle va exhiber son piercing dans le nez. C'est ça va à contresens d'agir de la force. Hada khata. Hada kulluhu min tabarruj. Tout ça, c'est dans le tabarruj, ça même. Tayeb, là, j'aimerais citer quelques masaïl, quelques questions concernant les femmes entre elles. Les femmes entre elles. Première question qu'on pourrait aborder là, en résumé, c'est les femmes entre elles lors des occasions, par exemple les noces, mariages, comment est-ce qu'elles s'habillent? Ont-elles le droit de s'habiller de façon provocatrice? C'est-à-dire court, serré, transparent et autres. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmahullah ta'ala, a été interrogé à propos de cela. Donc il a dit, c'est quoi la aura chez la femme? C'est comme celle de l'homme, en fait. C'est du genou jusqu'au nombril. La aura, d'accord, partie intime, c'est celle-ci. Mais il dit, cela ne veut pas dire que la femme puisse se permettre d'être habillée n'importe comment. C'est-à-dire que la femme, il lui permet de regarder les parties d'une autre femme si elle se découvre pour un besoin. Par exemple, elle a une robe et elle a besoin de faire une chose qui fait qu'elle soulève, par exemple, sa robe et son mollet apparaît. elle n'aura pas fait de péché. Ou elle allait être son enfant. Donc son sein apparaît devant d'autres femmes. Elle n'aura pas commis de péché. D'accord ? Ou, par exemple, elle fait un acte, et par exemple, je ne sais pas, moi, elle se mouille ou quoi, et cela colle, le vêtement colle colle son corps. La décision de corps. Et que la femme la voit. Elle n'aura pas commis de péché. D'accord ? Maintenant, il dit, cela ne veut. Ça, c'est, en fait, que cela apparaisse pour une raison, ce n'est pas un mal sur elle. Maintenant qu'elle fasse apparaître cela volontairement sans besoin, il a dit là, Adam et Dieu, la femme ne s'habille pas n'importe comment, même devant les femmes. L'ennafia hishma, elle doit avoir en elle une pudeur. D'accord ? Une pudeur, une retenue. Car même cela peut être une fitna pour les femmes. Ouais, et là, j'ajoute, ouais, c'est plus qu'un de chirurgie féminine, les femmes ont tabarijat, s'exposent à quoi ? Grandement à ce qu'on a haïn. Car si elle est belle, elle va attirer les jalouses, elle va attirer le regard. Et pour ça que les gens vont dire, Ma'ashallah, le mabarik. Ah, elle va dire, oh, Foulana, comment elle est belle. Ou Foulana, comment elle est ceci, cela. Ou même, elle va juste la regarder du coin de l'œil sans rien dire, impressionnée par elle. Aïm, ça va vite. Très, très vite. Voilà le moustahan. Donc, les femmes, entre elles, pareil. Elles ne s'habillent pas n'importe comment. Après, deuxième question, le sport. Également, le sport. S'il est pratiqué dans des conditions légiférées, sans m'exciter, sans musique, non mélangé ou fasikat, mal habillé, d'accord, et que ce ne soit pas au détriment de leur devoir religieux, alors les règles sont les mêmes dans les tenues. D'accord. Elles ne s'habillent pas n'importe comment pour aller faire du sport. Et là, je vise principalement quoi? La piscine. Les sports nautiques. Non, c'est là où on est plus amené à se dénuder et se déshabiller. Et là, j'aimerais aborder ce qu'on appelle ce phénomène qui a apparu il y a quelques années, qu'ils appellent le burkini. Wama adraka ma al-burkini. Wama adraka ma al-burkini. Qu'est-ce que le burkini? Ça, c'est une bid'a. Et du fisq et du jahl. Son nom lui-même explique tout. Un mélange de burqa. C'est quoi le burqa? À la base, le burqa, c'est comme le niqab. C'est comme la femme, c'est son visage qui laisse juste apparaître les yeux. Donc, le burq du mot vient de burqa. Et le kini vient de quoi? De bikini. Donc c'est un mélange de halal, de haram. Genre, le burqa, c'est mon identité islamique et ma pudeur. D'accord? Et le bikini, c'est ma liberté, mon besoin de pratiquer une activité nautique comme tout le monde. Et la version masculine serait quoi? Le kamislip. On pourrait dire comme ça, le kamislip. Sinon, on veut faire la même chose. Alors, est-ce qu'on va le faire? Oui, les azobines, on va pas le faire. Ben, elles séparent ce qu'elles font. C'est absurde. Savoir que aller dans les piscines ou les plages publiques ouvertes à tous n'est permis ni pour l'homme et ni pour la femme. Même si elle y va habiller avec son djilbab ou l'homme il habille avec son kamis, sa imam, tout ce qu'il faut, ces lieux-là ne sont interdits. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَ مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا كَمَا قَالَ تَعَالَى. Le verset peut être traduit de différentes façons. Ceux qui ne font pas de faux témoignages, c'est ça, لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Également ceux qui n'assistent pas ou qui ne se présentent pas dans les lieux du mal. On appelle ça également Zour. Et lorsqu'ils passent devant des futilités, ils passent en se détournant honorablement. Ils font pas attention. D'accord ? Donc l'islam interdit le tabarruj et ordonne de baisser le regard. Donc ensuite on va aller quoi ? Prendre du bon temps au milieu des gens en milieu de bain. Est-ce que c'est marcoul ça ? Tu dois baisser le regard, t'habiller correctement, te cacher, et tu vas faire quoi à la piscine? Qu'est-ce que tu vas faire à la piscine? On parle pas des piscines privées entre hommes habillés correctement, ou des piscines entre femmes, là on parle des piscines publiques, des plages publiques, ce genre de lieu. D'accord? On n'a rien à y faire à la base. Burkini ou pas burkini? Même en jilbab, ou même nous, comme on dit, en kamis, on n'a rien à y faire. Donc ce burkini, ce vêtement, c'est une atteinte à la femme, à l'image de la femme muslima, qui en réalité la ridiculise aux yeux des gens plus qu'autre chose. Même les koufars, ils rigolent de ça. Sans compter qu'ils ne respectent pas les conditions légiférées du vêtement de la femme hors du foyer. Le burkini, c'est un vêtement qui est moulant. C'est un vêtement qui, même s'il laisse pas apparaître la peau, il fait apparaître les formes du corps. Même s'il est comme il est, c'est pas un vêtement qui est légiféré. Qalat Aïcha radhiyallahu anha, Antunna, quand elle était interrogée à propos d'aller dans les comme on dit en arabe, hammam, ils appellent ça hammam en français. Des espèces de lieux, de lieux, des lieux là, où les gens se lavent, les lieux communs. Ils appellent ça hammam à la façon française, tu vois. Alors qu'en arabe, c'est hammam. Antunna allati yadkhulna al-hammamat, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi à Aïcha à propos des femmes qui sont dans les hammamat, justement, ces lieux de lavage commun? Elle a dit, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'a pas une femme qui enlève ses vêtements dans autre part que dans le foyer de son mari sans qu'elle n'ait violé. Elle n'ait violé l'intimité et on va dire là le côté, on va dire la dissimulation, je sais pas si on dit dissimulation, ça se dit en français, le côté dissimulé qui est entre elle et son seigneur. Donc la femme n'enlève ses vêtements que dans des besoins, dans des cas précis. Elle ne les habille pas n'importe où. Pareil. Troisième question concernant également cette masala là, c'est les vêtements courts et serrés pour les filles, les petites. Là j'aimerais lire un kalam de Sheikh Al-Utsaimin. Mais vu que ça a tardé, je crois que je vais le traduire directement, que des gens souvent disent, Charles Semin, il parle là, je traduis directement, ils disent que ce n'est pas grave, car elle est petite, on peut l'habiller de la sorte. D'accord? Et que sa aura n'a pas de hukm. Il n'y a pas de jugement sur elle par rapport à ça. Donc la fille petite, on peut l'habiller comme cela. Donc, il a dit, qu'elle soit grande ou petite, il ne faut pas l'habiller de la sorte. Pourquoi? Car en faisant cela, tu vas lui enlever sa pudeur quand elle va grandir. Elle sera habituée à se découvrir devant les gens. Alors que la pudeur, justement, faut l'ancrer dès son enfance, la prendre, elle, hishma. Deux petites, elle haya, deux petites, qu'elle s'y habitue. Si tu la prends petite à être comme ça, elle va grandir avec ça en elle. Et vous le voyez la différence, wallah, les femmes qu'on, je vois les femmes ici au Yémen, comment elles sont, et les sœurs de France, comment elles sont, elles forquent, mithl, ma bayna samay wal ard. Dans la pudeur. Même les femmes, je parle des femmes en France, les sœurs salafiettes, comment elles s'habillent, elles sont habillées comme il se doit. Mais la pudeur qu'elles ont dans leur comportement, en elles, et les femmes du Yémen, ça n'a rien à voir. Pourquoi c'est ici, elles ont grandi depuis petites, habituées à cela. En France, non. Beaucoup d'entre elles, petites, n'ont pas grandi dans l'islam, et elles ont pris cela plus tard, en étant grandes. Qu'Allah leur pardonne. Mais, la défaillance au niveau de la pudeur, ça reste en elles. Contrairement à une petite qui a été éduquée comme cela depuis son enfance. Là, c'est un kalam général, ce n'est pas du cas par cas. De façon générale. Donc, il dit qu'il a un enfant petite, sera habitué à cela. D'accord? Et il a dit, il a rapporté une parole des Zuhri, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, la petite fille, le hijab, c'est pas obligatoire pour elle. Beaucoup disent cela. Quand les Zuhri, qui est parmi les tabi'in, la yasla un nazar le shay mimman, il a dit qu'il n'est pas permis de regarder vers une chose qui attire le désir, d'accord, même si elle est petite. C'est-à-dire une petite fille peut être une fitna pour quelqu'un. Et les petites filles, elles sont attirantes. Les petites filles. Et en islam, à la base, une fille peut être jeune et épousable. Même si elle n'a pas de rapport. Et même s'il y a des rapports, si elle le supporte, comme vous le savez. Donc, cette fille-là, à quel moment elle doit être couverte? Les ulama, ils ont dit à partir du moment où elle attire le regard. Il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas dire elle a 9 ans, elle a 10 ans, elle a 13 ans. Non. À partir du moment où cette petite fille attire le regard des hommes, il faut la couvrir. Même si elle a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'âge. Elle, en se découvrant, elle n'a pas de péché. Ça. Mais toi, en tant que père, ou toi, en tant que mère, tu as le péché d'avoir quoi? Laisser ta fille comme une tentation aux yeux des gens. C'est comme la salat. Obliger l'enfant à faire salat quand il a 7 ans ou 10 ans. L'enfant, s'il fait pas salat, il n'a pas de péché. Mais toi, tu as le péché de ne pas avoir suivi les hadiths. C'est pareil pour la petite fille. Depuis petit, il faut l'habituer à cela. Un autre cas de Sheikh Al-Utsaimin que j'ai oublié de dire. Yaqul, wa la yughrannakum man lam yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa inna hadha tabarruj. والثياب القصيرة والضيقة إنما صنع تقليدا لهم وإن أعداءكم يعلمون أنهم لو دعوكم إلى الكفر ما كفرتم ولو دعوكم إلى الشرك ما أشركتم ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخلاقكم ودينكم من جهات أخرى، من جهات محقرات الذنوب التي يحقرونها في أعينكم فتحتقرونها وتأتونها حتى تنزل بكم إلى النار. Donc il a dit, cher Othamine, en conseil à ces gens-là qui s'habillent de cette façon-là, ne soyez pas dupés par ces gens qui ne croient pas en Allah au jour dernier. Car le tabarruj, les vêtements courts, les vêtements serrés et autres, n'ont été justement confectionnés chez nous les muslimines que par imitation justement des koufars. Car nos ennemis savent très bien que s'ils appellent au couvre, on ne va pas répondre. S'ils appellent au shirk, on ne va pas répondre. Cependant, ils vont faire en sorte de vous faire agréer ce qui nuit à vos mœurs et à vos coutumes et à votre religion par d'autres directions. Ils vont venir par d'autres directions. Comme le fait de sous-estimer les péchés qui vont vous rendre comme étant anodin à vos yeux. Et de fil en aiguille, ça vous emmène à où ? Vers le feu. Donc les koufars insiste grandement sur ce côté-là. S'il va te dire, je ne veux pas te faire, mais croire, au moins je vais te rendre faible dans ta religion. Et qui sait par la suite où est-ce que ça peut aller. Tu vois. Comme Shaitan, il va jamais te faire, mais croire comme ça du jour au lendemain. Il va venir par un péché, un petit. C'est un petit péché, ce n'est pas grave. Un deuxième, c'est pas grave, allez, pardonne. Jusqu'au jour où tu arrives à un grand péché, ainsi de suite, jusqu'au jour où tu arrives à ce qui est de plus dramatique que cela. Et c'est avec tristesse que l'on constate que les femmes les plus provocatrices dans leur accoutrement, et là je parle de la France, là c'est le pays que j'ai connu le plus, en dehors du Yémen et de l'Égypte où j'ai fait un an, bien souvent sont les filles des musulmanes. Allah, ces filles affiliées à l'islam, parmi les maghrébines, les africaines, tu les verras s'habiller d'une façon que même beaucoup de françaises de souche ne feront pas. Aussi, tout cela doit faire réagir ces sœurs qui ont ce fikr. Des sœurs qui ont ce fikr semblable à celui du burkini, mais dans la rue, avec leur pseudo-hijab. Et cette étrange façon de vouloir camoufler leur peau tout en voulant s'intégrer. Tu les vois se couvrent la tête d'un foulard coloré, fashion, avec des motifs ou autres, ou même unis, attachés comme un bandana, c'est-à-dire qui passe derrière la nuque, et elles portent des cols roulés pour cacher leur cou et autres. En se disant, je suis caché, on ne me voit pas. D'accord ? Elles ne portent pas la tenue exigée, et cela pourquoi ? Par la honte du regard. Elles ont honte du regard des gens sur elles. Elles ont peur du regard des gens sur elles. Mais la vraie honte à ressentir, c'est laquelle ? C'est celle d'Allah Azzawajal sur nous. Lorsqu'on enfreint ses limites, يَسْتَعْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَيَسْتَعْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمَا عَهُمْ إِذُبَيِّتُونَ مَا يَرْضَوْ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Ils se cachent des gens, ils ne se cachent pas d'Allah lorsqu'il est avec eux, lorsqu'ils disent ce qu'ils n'agréent pas comme parole. Et que Allah, il s'en est toute part. Quoi que tu fasses, allez te voir. Car tout ce sujet de tabarruj, tout ce sujet de tabarruj, en réalité n'est basé que sur un problème commun, comme on l'a dit au début dans la définition, c'est le regard des gens. Soit pour séduire, ou soit par peur des critiques. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَوْفُهُمْ خَوْفُنِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ce n'est que Shaitan qui vous fait peur par ses alliés. Donc ne le craignez pas, et craignez-moi si vous êtes croyant. Et celles en particulier qui cherchent à plaire aux hommes de cette manière, même on te dit, tu arriverais mais c'est à obtenir l'homme que tu souhaites, s'il a succombé à ton charme par ce procédé-là, sache qu'il succombera au charme de bien d'autres femmes plus belles que toi, prêtes à porter des jupes plus courtes que la tienne, des décolletés plus prononcés que le tien, un maquillage mieux profilé que le tien. La concurrence, elle est rude dans ce domaine-là. Allah. Wa kama yuqal, kama tudin, tudan. Comme tu fais subir, tu subiras. Comme tu fais subir, tu subiras. Et là, j'aimerais lire ce qu'a dit le sahib du livre Nadarat al-Na'im en conclusion par rapport au tabarruj. Ses conséquences. Ses conséquences. En premier lieu, cela est une preuve de la faible foi de la femme de son but pudeur. Deuxième chose, c'est une cause pour qu'elle soit renvoyée et éloignée de la rahma d'Allah, Car au début, on a dit quoi? Que Nabi Sallam l'a dit de les maudire, ces femmes-là. De les maudire. Que cela également l'expose au feu et la prive du Jannah. On a dit au début qu'il ne sentira pas l'odeur du Jannah, alors que l'odeur du Jannah, on la sent à des distances immenses. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une kafira, forcément, mais qu'elle n'entrera pas par les premiers. Également, min a'mal jahiliya wal fusaq. C'est parmi les actes des pervers, des gens de la jahiliya. Également, en faisant cela, la femme s'expose à se faire courtiser par les gens mauvais et ceux qui ont le cœur malade et les gens qui ont du nifaq dans leur cœur parmi les musulmans. D'accord? Également, cela amène à répandre les turpitudes et le mal, la débauche au sein des gens, des sociétés. Cela également est une tachabour bil kafirat al fajirat, c'est une ressemblance aux mécréantes perverses. Aussi, parmi les causes qu'il cite, que cela dissuade les musulmans droits de vouloir avoir une fille, une vie conjugale avec ce genre de femmes. Donc ces femmes-là ne seront pas convoitées par les hommes droits. S'il la convoit, ce sera pour avoir un rapport, comme ça, min hisu shahawat, mais faire une vie concrète, fonder un foyer, une famille avec elle, il dira à cette femme-là, je ne fais pas confiance, c'est net. Tu ne verras pas un homme ayant espoir d'une vie saine, sur le stikama, vouloir se marier avec une femme comme celle-ci. S'il la prend, c'est juste pour ses shahawat. Et quand elles seront assouvies, il ne restera pas avec elle. والعياذ بالله فيا أمة الله 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 في نفسك الله الله في نفسك car ce genre de comportement et ce genre d'attitude ne fera que t'exposer à un châtiment douloureux et sans compter l'influence que tu auras sur les autres qui te verront et sans compter ce que tu mets dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui te regarderont. Donc en espérant que cela aurait été un rappel suffisant pour pouvoir ramener la raison, celles qui auront été atteintes par ce mal ou celles qui auront ignoré les règles qui s'y rapportent et ce qui en découle. Fabien Adalka de Naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.